Le remède à la désinformation. Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
C'est une espèce de petite confusion qui a traîné toute la semaine. Et j'ai encore des gens qui m'écrivent. Il y en a encore qui m'ont écrit ce matin. On peut se faire vacciner ou on peut pas se faire vacciner. Les gens voient que les malades chroniques sont maintenant admis. Ils peuvent maintenant réserver une place en vaccination, mais ça demande la définition qui entre ou n'entre pas dans la définition de malade chronique. Gaston Desserre, médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique, est avec nous. Bonjour, docteur Desserre.
Bonjour, M. Dumont.
Pour vous, est-ce que c'est clair, ces définitions-là?
Ben, écoutez, je pense que il faut faire attention parce qu'effectivement, toutes les maladies chroniques, là, on peut avoir toutes sortes de maladies chroniques qui sont pas éligibles pour la vaccination. C'est vraiment la liste des maladies chroniques qui augmente le risque de faire des complications avec la COVID, là, qui sont visées.
OK. Les gens qui ont ces maladies-là. Prenons un des cas, là, le diabète. Là. Moi, ça, j'ai eu des communications. Les gens qui ont le diabète se demandent, on peut-tu avoir un rendez-vous? On peut-tu pas l'avoir? Est-ce que c'est toutes les formes de diabète? Et quoi, la sorte de diabète, la gravité de diabète qui le justifierait?
Écoutez, c'est une bonne question à laquelle je peux pas vous répondre. Là, comment ont été organisées les choses au niveau de... Mais normalement, je dirais, il n'y a pas de... J'allais dire, il n'y a pas de différence. Là, on va dire, bon, mais toi, si tu prends tant d'insuline, le diabète, ça fait partie des conditions, des maladies là pour lesquelles les gens sont éligibles. Alors, évidemment, c'est clair que quand on regarde les gens qui ont les pires complications de la COVID, ben c'est généralement pas ceux qui ont les formes les plus légères des différentes maladies là qui sont visées. Mais au niveau de la gestion, c'est pas possible de dire bon ben moi j'ai une petite maladie pulmonaire, l'autre une grosse maladie pulmonaire, puis évidemment le vaccinateur il peut pas faire le ménage là-dedans. Là.
Alors, mais dans votre esprit, mettons un diabétique là, sérieux, là, quelqu'un qui vit que les formes là, c'est le diabète de type 1, là, tu sais qu'il faut se piquer puis tout ça, là, les formes les plus sévère. Il prend son rendez-vous, puis même s'il a 40 ans, il prend son rendez-vous, puis il devrait pouvoir se faire vacciner dans la catégorie des malades chroniques telle que définie présentement.
Ben, normalement, oui.
OK. Même chose, les asthmatiques, comme ça, les maladies du poumon, ça, c'est parmi celles qui sont les plus à risque, là, en théorie.
Ouais, en même temps, il faut voir là. Peut-être que pour les asthmatiques là, il faut faire attention parce que il y a comment je vous dirais, il y a beaucoup de monde qui vont avoir parfois des pompes là, comme on appelle les médicaments pour les bronchodilatateurs.
Ils font une crise par 3 ans.
Ouais, exactement. Ça là, c'est pas visé là par.
Non, je comprends.
Mais des gens qui prennent des médicaments régulièrement pour leur asthme, ça c'est certainement des personnes qui sont à risque. Évidemment, c'est pas chez les asthmatiques qu'on a vu les graves problèmes. C'est beaucoup plus chez les gens qui avaient des maladies pulmonaires obstructives chroniques, comme la bronchite chronique, l'emphysème. C'est ces gens-là qui sont déjà très, très hypothéqués. Ça veut pas dire qu'un asthmatique très sévère, c'est pas quelque chose d'important et qui vaut clairement la peine d'être vacciné là en priorité. Là.
L'INSPQ suit toute une série de critères, notamment comment les gens adhèrent, comment les gens respectent les mesures sanitaires. Vous avez l'impression là, que c'est si on suit au chiffre que les gens sont... C'est de plus en plus difficile, là, hein?
Ben effectivement, il y a une étude qui s'appelle l'étude Connect qui essaye justement de regarder les contacts que les gens ont entre eux dans leurs différentes activités, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, à l'école, en dehors de ces milieux-là. Et en fait, ce qui est peut-être la chose préoccupante, c'est que quand on regarde là, le mois de mars, les données qui sont entrées au mois de mars, on est revenu à des niveaux de contact un peu comme on avait à l'automne. Donc, ça c'était plus bas au début de l'année, puis ça monte. C'est certain que quand on voit ce genre d'augmentation-là, ben c'est rarement... bon signe. Là. Ça explique peut-être la montée qu'on voit se produire. Ces contacts-là, ben évidemment, on voit que des fois, c'est des chiffres qui ont l'air petits au niveau des pourcentages. Là. Donc, les gens, par exemple, de l'extérieur de la maison qui viennent à la maison, c'est pas beaucoup. Mais quand on voit des augmentations là-dedans, puis qu'on sait que c'est là où se produit quand même pas mal de transmissions, ben évidemment, c'est préoccupant.
Ouais. Et on en attend des exemples. J'en ai encore raconté un hier de quelqu'un. C'était pas des grands rassemblements. Il louait pas le stade olympique pour se faire un party de famille, mais on allait visiter une personne plus âgée. On n'était pas supposé, mais on se disait, ah, tout va être correct. Puis on l'a fait pendant plusieurs mois, puis tout était correct. Puis à un moment donné, il y en a un qui avait la COVID. Puis la personne plus âgée n'a pas passé à travers, là. Et tu sais, on a tous des histoires comme ça qui commencent où, puis les gens, une vit plus, puis l'autre vit avec la culpabilité, puis c'est quand même une prise de risque, là. On peut dire, on assume le risque, mais la plupart des gens qui, ma compréhension, la plupart des gens qui prennent le risque, là, ils l'assument pas vraiment le risque. Ils se disent, ah, non, ça arrivera pas, c'est pas nous autres, pas. Mais, on se fait parfois prendre par le virus, hein.
Ah, c'est sûr que c'est pas pour rien que, si la transmission se faisait toujours quand les gens toussaient, là, comme vraiment là, quelqu'un qui est épouvantablement mal pris au niveau pulmonaire, les autres le regarderaient et diraient « Oh, il est malade ». Mais c'est pas tout le temps dans des situations comme ça que les gens
font. En fait, c'est presque jamais. Quand c'est comme ça, justement, les gens fuient. C'est presque exactement. Toujours des gens qui n'ont pas de symptômes ou pas encore de symptômes. Des fois, ils vont en avoir 2-3 jours après, mais au moment où ils donnent la maladie, ils en sont pas encore conscients.
C'est ça. Je veux dire, quand la personne est fiévreuse, puis elle tousse, puis elle est malade, ben souvent, elle va rester chez elle. Remarquez que c'est quand même surprenant. En disant ça, on a eu des situations qui étaient clairement des gens là qui étaient très malades puis qui continuaient à se promener là malgré non seulement qu'ils étaient malades, mais qui savaient qu'il y avait la COVID. Alors, je pense que c'est sûr que la situation que vous décrivez de gens qui disent « Oh non, on va s'en sortir », ben malheureusement, ça arrive assez souvent.
Ouais. Docteur Dossard, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça m'a fait plaisir, M. Dumont. Au revoir.